By Montreal's Community News Collective. The collective includes Brian Jefferson, Tess Pilkington, Alice Wu, Kate Addison, Joel Salmadal, Killian Davenport-Brown, Elsie Yang, and Sarah Jesmer. For more information on anything you heard tonight, or if you would like to participate or support news produced by and for the Montreal community, please contact CKUT's Community News Department at 514-448-4041. Extension 7000, or news intern at ckut.ca. Also, you can follow us on Instagram at Off the Hour, or connect with us on Facebook, search for us on CKUT. Stay tuned for Cafe coming up next on 90.3 FM.
CKUT Radio Community.
The following is a previously broadcast program.
Bonsoir et bienvenue à votre émission d'art et culture préférée, Café, à CKUT 93. Ce soir, je suis accompagné de Marie-Pierre. Ça va, Marie?
Allô, ça va?
On va être les deux, on va jaser première partie littérature, deuxième partie théâtre. Donc, littérature, ça va être Nature morte au couteau, de Dan-Marie Demeul, et Tout est tori, de Serge-Paul Forêt.
Exactement.
Donc, partie littérature. Deuxième partie théâtre, on va y aller avec les murailles à la licorne, les trois sœurs de Tchekhov et le nœud de Joanna Adams.
Oui.
On n'en dit pas plus. Le tout, comme d'habitude, sera parsemé de musique qui sortent en même temps que les fleurs. Vous m'avez bien entendu, je me sens lyrique. En parlant de fleurs, on va y aller tout de suite avec une nouvelle pièce de Lysandre. La roseraie, c'est une fleur.
Tellement concept, Anthony.
Ouais, on y a pensé, hein. Donc, Lysandre, on va arrêter de faire des blagues poches. Lysandre sort un nouvel album sans oublier avec Chivi le 25 mars. Donc, en fait, ça, c'est sorti déjà, là. Le lancement officiel, c'est le 5 avril au théâtre Fairmont. Donc, on se gâte la roseraie. De retour à Café 93.3, c'est l'heure de parler d'un recueil, de poésie, « Nature morte au couteau » d'Anne-Marie Desmeules. Anne-Marie Desmeules a été lauréate pour le prix du gouverneur et celui des libraires en 2019 pour son premier recueil « Le tendon de l'os ». Et à la fin 2020, elle ressort au Cartanier un autre recueil qui s'appelle « Nature morte au couteau ». La poésie dans ce recueil-là est souvent en prose, parfois en forme de nouvelles, de récits, et d'autres fois formée de petites phrases courtes. Au fond, on retrouve une impressionnante liberté dans la forme, autant dans la construction des phrases, dans la syntaxe en tant que telle, qu'au niveau comme plus global de l'écriture. De son côté, le fond du texte, met souvent en scène, sinon toujours des personnages féminins pris au piège dans leurs démons ou dans leur situation, en forêt, dans des grottes. C'est souvent très obscur. Et, bien, à vrai dire, là, pour être sincère, tout au long de ma lecture, j'ai jamais été certain de grand-chose. Les textes sont particulièrement difficiles à suivre et à lire. La majorité des phrases sont des images, des analogies, des métaphores. Ou peut-être toutes les phrases, tu sais, on le sait plus. On ne sait plus si on est au premier niveau ou au deuxième niveau quand on lit. L'écrivaine ne se retient pas pour utiliser les mots les plus précis qui soient. Précis dans le sens que j'ai dû, genre presque à chaque texte, presque à chaque page, m'arrêter parce que je ne connaissais pas un ou deux mots. Genre m'obligeant même à ouvrir mon dictionnaire. Vous imaginez, ouvrir un dictionnaire.
Mais as-tu envie de nous en lire un extrait pour qu'on sache un peu mieux de.
Oui, ben de quoi c'est ça, j'aimerais. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. C'est ça qu'on va voir. Donc, je vais vous lire. Hiver 32, c'est à la fin. C'est une bonne page, donc accrochez-vous, c'est parti. Je dis chaleur du centre, charbon des extrémités, joue et polymère fondu. Sache que je maîtrise mieux chaque jour l'art du jaunissement. Juge avec prudence de la salive comme des adverbes. Mon sommeil à 1000 ans, une genre de voiture accidentée de tics et d'ondes retenues. Mon sable se déverse en petits monceaux et mes croquis, alourdis par la bruine, ne volent plus. Une saison d'aube larmoyante, fricassée, une année de soir distant. Je trébuche sans jamais tomber. Devant le champ d'épuration des lignes, mes seins d'indécision, je me retiens d'ouvrir la cage. Je retiens le champ qu'on attend de moi. Je me retiens de vomir. Les branchages ont atteint les murets de pierre et créé des bosquets de jouets obsolètes. La beauté prend un tournant abrupt. Je ne sais quel chat nourrir. Pour passer le pont, il me faut revenir à l'UV d'autrefois, retracer, effacer, calculer, dégauchir. J'attends à la porte du ciel comme un golden retriever, un métal blanc incrusté dans l'ovale du faciès. Le temps sanctionne mes gestes. Incline la trame du bois.
Ouh! Ouf! Faudrait qu'on puisse réécouter déjà là, ce que tu viens de nous.
Relire. Mais c'est un peu ça, là, c'est ça la question, cette situation du dictionnaire ou de la complexité. Je me demandais comment agir face à ce genre de texte-là. Tu sais, ça vaut-tu la peine de lire d'un coup autant cette page-là que tout le recueil? Sans s'arrêter, sans briser le rythme, parce qu'on sent que le rythme est important, là. Il y a vraiment un beau rythme dans le texte, ou il faut s'arrêter, relire, voir dans le dictionnaire, s'assurer d'aller vraiment en profondeur. Qu'est-ce que tu en penses, Marie?
Mais je sais pas, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est presque de poser la question, est-ce qu'il faut le lire comme si on était des gens qui étudiaient le texte pour écrire une dissertation universitaire, par exemple?
Ouais.
Donc, est-ce qu'on doit nécessairement tout comprendre? Ou l'objectif, ce serait de se faire imprégner, de se laisser un peu imprégner par ces images-là qui sont créées, puis peut-être de laisser passer une certaine forme de que ce soit correct. Mais je me pose vraiment la question parce que souvent, tu sais, un roman, si on comprend pas un mot, ça va, on peut s'accrocher au contexte et ouais. On peut continuer notre lecture, ça bloque pas. Là, est-ce que comme c'est en prose, on doit aussi avoir un peu le même traitement? C'est une bonne, vraiment bonne question, je sais pas.
Mais des fois, j'ai l'impression de pas être à la hauteur de la puissance de signification de l'écrivaine. C'est sûr qu'elle avait une idée derrière la tête, là.
Ouais.
Puis là, je me sens à des années-lumière de son idée derrière la tête.
Oui, c'est toujours difficile. En fait, moi, je trouve que je ressens un peu la même chose que toi quand je me retrouve dans la poésie qui est comme un peu plus hermétique, là, du point de vue du sens, du moins. Mm-hmm. Tu sais, ça crée des belles images, mais après ça, quand on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi les thèmes importants? Ben là, ça peut nous échapper. C'est pour ça, des fois, que ça me fait un peu peur, en fait, la poésie.
Ben, je me suis senti un peu comme ça. J'ai trouvé la lecture difficile, je l'avoue. Difficile parce que je peinais à comprendre le sens. Parce que je pense qu'il faut comprendre le sens quand on lit quelque chose. Mais ça a été, pour moi, le genre de lecture que c'est pas... Comment je fais ça? Qui m'accroche pas au texte, mais au contraire, qui me sortait du texte, puis qui m'envoyait valser dans mes propres pensées, comme du moment. Puis là... Plus que je lisais, plus je me disais « Aïe, aïe, c'est inspirant au final. » Et je me suis laissé aller à mes pensées. Et là, la question, est-ce que c'est un problème de lire, mais de pas vraiment lire?
Ouais, ou est-ce que même c'est un effet voulu que le texte, comment dire, te rejette d'une certaine façon, puis que tu sois obligé justement de te retrouver un peu face à toi-même, à te retrouver avec tes propres pensées ou à même à questionner tout ce qu'on questionne en ce moment, c'est-à-dire la recherche de sens dans le texte, ou est-ce que c'est pas justement correct de... Tu sais, ça vient pas avec un mode d'emploi, un livre, là.
Surtout pas celui-là.
Surtout pas celui-là, encore moins, là. Il t'offre pas beaucoup de mode d'emploi sur comment le lire. Fait que, est-ce que c'est pas... Ça pourrait pas être une qualité, justement, d'un livre qui t'envoie ailleurs qu'en lui-même, là? Je sais pas si ça... J'exprime un peu ce que t'as senti en...
Absolument. En lisant. J'ai l'impression que le cœur du problème soit pas que ça soit herméneutique, mais que j'ai de la misère à vivre avec l'herméneutique.
L'hermétisme.
L'hermétisme.
Oui, ben l'herméneutique, c'est autre chose.
on va en parler dans un autre fois.
C'est autre chose, mais oui, comme ton inconfort par rapport à l'hermétisme.
Ouais, au fond, si j'enlève la culpabilité de pas avoir assez de concentration pour suivre la complexité du texte, je me dis qu'au final, j'ai traversé énormément de nouvelles pensées, de nouvelles idées.
Ouais.
Et ça, comme indirectement grâce au texte, mais que c'est beau. C'est beau ce que j'ai vécu, même si c'est pas le texte directement.
Ouais. J'ai envie de te questionner sur le titre. Aurais-tu une... Moi, j'ai peut-être une hypothèse là, de sa signification.
Mm-hmm.
Toi qui as lu l'œuvre complète, aurais-tu une interprétation de ce titre-là, « Nature morte au couteau »
Je dirais que c'est beaucoup dans le champ lexical. On est dans la forêt, on est dans la noirceur, on est dans des viols, il y a des sorcières, il y a des grottes. Donc, je trouve que le titre ramène beaucoup au champ lexical et à l'ambiance, quand même. Au sens large, on est vraiment dans l'ambiance, un peu comme tout ce que j'ai vécu dans le recueil. C'est de l'ambiance que j'ai reçue.
Mm-hmm. Mais je pense que, je pense qu'effectivement, ça se reçoit presque comme plus comme une ambiance que comme un sens, nécessairement. Puis je trouvais ça intéressant quand tu parlais de la précision du vocabulaire. Tu sais, ça m'a fait penser à l'expression, par exemple, quelque chose de taillé au couteau qui veut dire que c'est comme sculpté de façon tellement précise, tu sais. On va dire, par exemple, un texte taillé au couteau, tu sais, qui est très précis dans son vocabulaire, puis c'est exactement ce que tu disais, fait que je me demande si ça reflète pas un peu...
Ah, c'est sûr, parce que quand j'allais chercher le mot dans le dictionnaire, c'était d'une précision totale.
Ouais.
C'est souvent ça que ça faisait « Oh, OK, on parlait précisément de ça. » Puis c'est sûr que Anne-Marie Demeul, elle savait, là. Elle utilisait ce mot-là pas pour rien.
Et comme ça démontre aussi une forme d'érudition, là. Il faut comme connaître le sens de ces mots-là. Leur choix te semblait approprié dans le contexte.
Toujours.
Mais hyper précis, tu sais.
Et voilà, donc, mettons, pour conclure, je suis plus certain que ce recueil est absolument énormément travaillé et sensé. Ça, c'est la grande conclusion. Il y a du travail de moine là-dedans. Que derrière chaque virgule, chaque image, chaque mot rare se trouve une intention précise. Coupée au couteau, coupée au couteau morte, là, pour reprendre le titre. Et que pour ne pas déprimer, je vais m'accrocher au bonheur que j'ai eu en rêvassant sur ces mots-là, sachant que peut-être la meilleure chose à faire serait sûrement de réouvrir le recueil et de le relire à tête concentrée.
Veux-tu nous rappeler justement le titre du recueil et l'autrice?
Oui, donc c'est « Nature morte au couteau » d'Anne-Marie Demeule. On le retrouve au Cartanier, dans un beau bleu-vert foncé.
Oui, magnifique couleur.
Belle couleur.
Un peu, c'est ça, entre le bleu et le vert, ça évoque quand même la nature aussi.
Morte au couteau.
Ouais, c'est ça. Ça m'a quand même donné envie de le lire, je dois dire.
Si tu veux, je te le passe. on y va en musique en attendant pour aller à la prochaine capsule. Donc, entre-temps, on va aller écouter Jenny Haval.
Aucune idée, il faudrait que je pratique mon norvégien.
H-V-A-L, oui. Haval. Donc, on écoute la chanson « Year of Sky ». Donc, c'est une artiste norvégienne, comme tu disais. Elle a sorti un nouvel album, « Classic Object », le 11 mars 2022. On la connaît depuis longtemps. J'ai beaucoup écouté de ses anciens albums. Celui-là est peut-être un peu plus pop que ses anciens, qui étaient beaucoup plus expérimentaux, mais ça s'écoute tellement bien.
Oui, on vous le recommande. Donc, on y va en musique. Vous êtes de retour à l'émission Café sur les ondes de CKUT au 90.3 pour des petites discussions littéraires. Aujourd'hui, je voulais vous parler du roman Tout est Ori. Vous avez peut-être déjà vu passer ce premier roman de Serge-Paul Forêt qui est paru aux éditions VLB. On en a entendu parler notamment parce qu'il a reçu le prix Robert Clich 2021 qui récompense un premier roman justement, donc qui en fait la publication. Et il figure aussi là, parmi les 5 finalistes du prix littéraire des collégiens. Donc là, en ce moment, là, on est dans les discussions justement au sujet du prix. Puis ça devrait être connu, là, je crois, plus tard en avril, là, qui va remporter ce prix-là. Mais il a été retenu parmi les 5 finalistes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Tout est Ori? En fait, c'est sur la Côte-Nord. Donc, l'histoire se déroule sur la Côte-Nord. Serge-Paul Forêt est lui-même là, originaire de la Côte-Nord. Il dit s'en être inspiré pas mal. Et le récit tourne autour de la famille Lelarge, qui a pas mal, donc, qui a pas mal le contrôle là, du marché des fruits de mer sur la Côte-Nord. Donc, c'est une famille avec des parents, deux filles, qui, là, vraiment, ont une forme de monopole là, du fruit de mer sur la Côte-Nord.
Un monopole du large.
Voilà, le large, hein, ça le dit dans leur nom, et ils en prennent large. C'est une famille dont les personnages sont tous un peu hors, mais à la fois comme ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît, mais ils sont tous un peu hors du commun, un peu étranges à leur façon.
Comme quoi, mettons?
Ben, il y en a un qui, un des oncles, donc un des frères de la famille principale, qui vit dans une espèce de commune. Qui est très adepte de drogue. On comprend pas trop ce qu'il fait de ses journées. Il y a une de ses sœurs à lui, donc ça, c'est la tante, qui vit dans une grotte, dans une maison troglodyte.
Wow!
Ouais, exact. Et qui a plusieurs amants. Donc, il y a comme une espèce d'univers, là, vraiment fantastique, là, ou ouais, presque.
Ça l'accroche.
Oui, ben, c'est comme... À la fois, c'est très réel, là, les descriptions, puis tout ça, on est dans un monde très réel, mais qui... Ben, on pourrait parler presque de réalisme magique, je pense, quand on parle de cet univers-là qui est comme créé. Tu sais, vraiment basé sur la réalité, mais avec des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis là, leur quotidien à cette famille-là, puis de la communauté de la petite ville de Baie-Trinité, là, sur la Côte-Nord, va être un peu bouleversé par l'arrivée d'un visiteur japonais qui est un peu mystérieux. En fait, pendant longtemps, personne ne sait trop ce qu'il fait là. Tu sais, on le voit se promener sur la plage, il loue la maison d'un habitant. Et on apprend qu'il est lié à un gros conglomérat là, japonais, donc un ensemble d'entreprises.
C'est tellement drôle, ça fait tellement roman québécois, un étranger qui arrive dans un village, hein? Encore.
C'est vrai, qui vient encore bouleverser. Mais tu sais, c'est pas comme nécessairement l'élément déclencheur, mais quand même. En fait, ça il va participer des choses étranges, en fait, qui commencent à se produire dans ce village-là. Mm-hmm. Puis on connaît pas trop non plus là, les intentions du conglomérat. Mais tu sais, ça, tout le monde, ben, on le sait, les Japonais sont souvent là, friands des fruits de mer que nous, on mange pas trop mm-hmm. ici. Donc, il y a beaucoup d'exportations, en fait, de ce qui est pêché là, sur la Côte-Nord qui se fait au Japon. Donc, je vous en dis pas plus parce que en fait la suite du roman est dans son intrigue. Bon, il y en a plusieurs éléments, mais tu sais, ça tourne vraiment autour de cette présence là du visiteur japonais. Il noue une relation un peu plus particulière avec une des filles des Lelarge. Et en fait, il va avoir, ben, je pourrais peut-être en parler tout de suite, là, mais vous vous demandez peut-être, c'est quoi le Ori, hein, de Tout est Ori du titre?
Je me retenais pour poser la question,
ben,
là.
C'est ça. Ça va être lié à une couleur, en fait. Il va avoir, donc, l'apparition d'une nouvelle couleur qui est comme inédite, que personne ne connaît, puis qui a un profond impact sur ceux et celles qui la voient. Puis il n'y a même pas tout le monde qui est capable de la regarder. Hein. Parfois, elle va faire que les gens vont tourner leur tête.
Mais c'est quel genre de couleur?
Ben, et c'est vraiment difficile à décrire parce qu'elle n'est pas décrite en des termes de couleur dans le texte.
OK.
Fait qu'on peut s'imaginer qu'elle a comme des reflets, mais vraiment, Ori, c'est comme une couleur qui n'existe pas. Moi, je l'imagine, je sais pas pourquoi, mais je l'imagine blanche, nacrée, un peu comme l'intérieur d'un coquillage, ouais. Tu sais. Puis il y a justement un lien entre cette couleur-là puis le coquillage. En fait, il y a un personnage qui va essayer de la produire à partir de moules, donc cette couleur-là. Mais ça...
Des moules qu'on mange.
Ouais, je dis des moules, là, ou des... Oui, c'est des moules, il me semble. Donc, il y a comme... fait qu'on sent qu'il y a l'intérêt, justement, du fameux conglomérat japonais est en lien peut-être avec cette couleur-là qui fascine ceux qui la voient puis ceux qui sont capables de la regarder. c'est vraiment, je me rends compte en vous parlant que c'est vraiment un roman difficile à résumer, comme dans son histoire. Il y a vraiment, ben en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans ce roman-là, ce qui m'a marqué, c'est surtout le style puis sa construction narrative.
Okay.
Dans le fond, justement, ça foisonne un peu de petites histoires par-ci, par-là, mais qui vont dans la même direction. Là. Il y a un début, un milieu, une fin. Une fin même un peu dramatique et surprenante, donc je vous conseille de le lire pour la connaître. Mais pour la construction, en fait, entre certains chapitres qui sont centrés donc sur la famille Lelage, ce qui se passe, l'arrivée du visiteur, ben il y a d'autres chapitres qui s'intercalent et qui se penchent sur un mollusque ou un crustacé en particulier. Donc, par exemple, à un moment donné, à travers le roman, on a un chapitre sur le homard. Et donc, on va lire un chapitre sur le homard, toujours avec un angle intéressant du point de vue de sa consommation, de sa production. On dirait que si l'auteur a choisi l'angle qui était intéressant pour parler de ce fruit de mer-là. Ou on en a un sur la crevette, un sur les oursins. Il doit y avoir environ une douzaine de chapitres sur des...
J'ai presque peur de le lire avec mes allergies aux fruits de mer.
En fait, je pense que tu devrais avoir peur de lire parce que le style lui-même a quelque chose de très sensoriel.
Okay.
Ouais, donc, il y a comme un travail de description, là, avec une espèce de minutie et des détails qui interpellent vraiment les sens. Mm-hmm. La vue, le goût, l'odorat. C'est un livre qui peut même parfois susciter le dégoût. Fait que ça me surprendrait pas que
je fasse une crise anaphylactique.
Ouais, c'est ça. C'est très physique, très comme charnel, même du point de vue du corps, comme lecture. Donc, vraiment sensoriel. Puis, tu me fais penser, il y a justement un personnage qui fait une réaction allergique, puis qui est même protégée par sa famille, là, parce que, imagine, c'est une des filles des Lelage. Donc, toute sa famille travaille dans l'industrie du fruit de mer et elle est supposément allergique. Bon, on va découvrir même plus tard qu'elle est peut-être pas autant qu'on pense.
Il faut pas trop en dire.
Ben ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas tant un punch. Mais il y a ça, tu sais, tout le lien entre le corps puis les fruits de mer, étrangement, est très, 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 très présent.
Est-ce que tu as aimé ce style-là, sensoriel, physique? Il a l'air d'avoir un style quand même pas provocateur, là, mais précis. Là,
Je pense que le style, c'est quelque chose qui m'a impressionné, surtout pour, disons, un premier roman. Il y a comme quelque chose de très maîtrisé, tu sais, dans le choix des mots. Il y a même, tu sais, l'humour est assez bien intégré aussi. C'est parfois un peu ironique, tu sais, une tournure de phrase. Fait que je pense que le style, ça, c'est une des choses que j'ai aimées. La construction narrative aussi. Mais je pense que ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est que c'est un livre qui m'apparaît vraiment intelligent, donc vraiment bien construit, mais qui fait peut-être un peu moins appel aux émotions. Tu sais, je pense pas que c'est un livre qui m'a touchée, par exemple, par ses relations entre les personnages. Tu sais, c'était quelque chose de divertissant, je dirais, mais qui appelait pas tellement à mes émotions, à mes sentiments. Tu sais, je me suis jamais sentie vraiment attachée à aucun des personnages. Fait que je pense que c'est peut-être là où ça me rejoint moins.
C'est intéressant qu'un livre, donc des mots, des jeux d'esprit, tu sais, c'est abstrait, t'affecte plus à travers le corps qu'à travers l'esprit, finalement. T'étais en manque d'esprit après la lecture de tout ça.
Ouais, ben en manque surtout de sensibilité, je dirais, puis d'émotion. Mm-hmm. Tu sais, on raconte quand même des relations à l'intérieur d'une famille, des rencontres entre les personnages, c'est même une genre de relation amoureuse qui existe, mais tout ça est toujours décrit en des termes...
Je l'entends gluant. Ça a l'air gluant.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est très peu dans l'émotivité, beaucoup dans l'aspect charnel et très fonctionnel même du corps, là, tu sais, de comment les organes fonctionnent, disons.
Wow. Puis à qui tu conseillerais? C'est qui le lecteur ou la lectrice qui pourrait aimer ce livre-là?
Ben je pense que le lecteur ou la lectrice qui aimerait ça, c'est quelqu'un qui aime être stimulé sensoriellement, tu sais, mais qui cherche pas nécessairement à être ému par sa lecture, disons.
Ouais, ouais, ouais.
Mais je sais que des personnes autour de moi ont été très impressionnées, justement, du style, de la maîtrise du style, puis de la construction, puis aussi de l'inventivité, là. C'est quand même, il y a vraiment un beau travail de créativité des personnages, de l'histoire, dans ce roman-là. Mais c'est ça, il ne faut pas nécessairement chercher à vouloir être touché du point de vue des émotions.
Donc, c'était quoi? Peux-tu nous rappeler?
Oui, Tout est Ori de Serge-Paul Forêt, qui a reçu le prix Robert Clich en 2021.
Wow, ben, on a hâte de voir s'il va gagner le prix des collégiens.
Le prix littéraire des collégiens.
Bientôt, je pense.
Je crois que c'est en avril, oui, exactement. Où, en fait, bientôt, il risque d'avoir les délibérations, là, une fois que chaque petit jury à l'intérieur de chaque collège a choisi son candidat. Là.
On va rester à l'affût.
Oui, exactement. On y va en musique?
Bien sûr!
Donc, on va écouter une chanson, une nouvelle chanson de Patrick Watson en collaboration avec La Force. C'est sorti le 29 mars, donc cette semaine, et ça va figurer sur l'album Better in the Shade, dont la sortie est prévue le 22 avril chez Secret City. La chanson s'appelle Height of the Feeling, et c'est un beau mélange, en fait. Les deux voix, là, moi, je trouve magnifique comment la voix de Patrick Watson et celle de La Force se mélangent sur cette pièce-là. C'est particulièrement harmonieux.
J'ai entendu entre les branches que ça allait être un de ses albums les plus électroniques.
On sent déjà la musique électronique sur cet album. Donc, on écoute ça ensemble.
Améliorez les résultats de votre entreprise en adoptant de nouvelles stratégies et technologies numériques. Accédez à des conseils d'experts et demandez jusqu'à 15 000 $ en subvention à canada.ca/adoption-numérique. Un message du gouvernement du Canada.
De retour à café sur les ondes de CKUT 90.3, on écoutait Patrick Watson et La Force avec la chanson « Height of the Feeling ». On avait envie de vous parler de théâtre.
Oui.
On est allé au théâtre.
Il y a eu le déconfinement, puis là, on est devenu fou.
On est devenu fou. On a pu faire des activités qui n'étaient pas possibles pendant la pandémie. Donc, le mois de mars a été un mois de théâtre. J'avais envie de continuer notre voyage sur la Côte-Nord, faut croire, avec la pièce Les Murailles, qui est une adaptation théâtrale du roman du même nom d'Erika Soucy. Elle est présentée encore en ce moment là, à la Licorne jusqu'au 2 avril, donc vous avez peut-être la chance d'aller demain au théâtre, mais j'ai su que quelques représentations avaient dû être annulées, hein, COVID oblige et recrudescence des cas. Il y avait justement un article ce matin là, dans le journal sur le fait que le milieu de la culture était encore... recevait l'impact là, de ces nouveaux cas de COVID-là.
C'est ça, c'est pas juste dans la société que dans le monde, les artistes le pognent.
C'est ça. Exactement, puis je pense que c'est très difficile là, de revenir là, participer aux répétitions et tout ça quand on est atteint de la COVID. Là. Je pense qu'elles sont encore un peu sévères sur les modalités de ces retours-là. Donc, la pièce Les Murailles, c'est le texte et l'idée originale est d'Erika Soucy, la mise en scène de Maxime Carbonneau. Erika Soucy joue aussi le personnage principal qui est elle-même. Hein. Le roman, c'est une autofiction, donc elle joue son propre rôle. Elle écrit donc à son propre sujet. Donc, on se retrouve encore une fois sur la Côte-Nord. Erika décide, là, alors qu'elle est jeune maman, justement, elle vient d'avoir un enfant là, qui a à peu près un an, elle entreprend un voyage là, dans un campement du barrage de la Romaine. Elle s'y rend en tant que poète. Donc, au début, elle cache un peu le fait qu'elle est poète, puis elle dit qu'elle va travailler dans les bureaux là, d'administration. Parce que, on se rend vite compte là, que la présence d'une femme dans un campement de la Romaine, c'est assez rare. Donc, on se fait pas mal remarquer.
Ouais.
Donc, elle s'en sauve comme ça en disant qu'elle va travailler dans les bureaux. Mais bon, elle doit révéler là, peu à peu qu'elle fait un travail de poète. Et elle s'y rend pour écrire sur le campement, mais surtout pour s'intéresser à la figure de son père, donc à son père lui-même, qui travaille toujours là, au moment où elle se rend.
Il était là quand elle était là.
Exact. Elle se rend là, il sait qu'elle s'y rend, il se rencontre là-bas. Il y a même son frère là, qui fait un petit passage dans la pièce aussi. Donc, c'est un peu de famille. Il faut dire que c'est une réalité qui est très, très, très commune, là. Ce qu'on appelle le « fly-in, fly-out », donc d'aller travailler deux, trois semaines là, dans un chantier loin de la maison, puis de revenir quelques semaines, un mois à la maison. Il y a beaucoup de gens dont c'est la réalité là, sur la Côte-Nord. J'avais posé ma question à des étudiants dans un cours à Sept-Îles où j'ai enseigné au cégep, puis tout le monde avait levé la main quand j'avais posé la question « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre de travail-là? » Ouais, fait que c'était la réalité de à peu près tout le monde. Donc, au fil de l'histoire, là, dans le roman, mais aussi dans la pièce, on comprend que sa relation à son père a été quand même assez décevante, là, même peut-être malsaine, que son père, là, qui était souvent parti au chantier, n'était jamais vraiment très présent. Puis même quand il était à la maison, il était distant, on sent qu'il avait des problèmes d'alcool, donc qu'il n'a jamais vraiment développé là, une relation de proximité avec ses enfants. Et que, Erika Soucy a une forme de, comment dire, d'amertume par rapport à ce milieu-là. Fait qu'elle s'intéresse comme avec une certaine curiosité, mais aussi une curiosité qui est en lien à son histoire personnelle, à ces chantiers-là qui, dans le fond, capturaient son père, tu sais, pendant ses absences.
Ouais, voir qu'est-ce qu'il capturait.
Exact.
Qu'est-ce qui l'empêchait de voir son père.
Qu'est-ce qui l'attirait aussi, tu sais.
Pourquoi son père s'en allait.
Pourquoi son père s'en allait.
Mieux être là-bas peut-être qu'être dans la famille.
Exact. Fait que c'est un peu ça qu'elle va chercher dans la pièce. Fait qu'elle pose un regard comme à la fois qui est critique, parce qu'elle est là, donc elle subit l'impact de ce genre de mode de vie-là, mais aussi tendre, parce que ça fait partie de sa famille, ça fait partie des gens qui l'entourent puis des gens qu'elle aime, sur cet univers-là, un peu fermé, hein, un peu comme séparé du monde, des grands chantiers qui sont justement cernés de murailles. On peut penser que le titre vient de là, comme un espace fermé, puis même un espace protégée du monde, d'une certaine façon. Comme les obligations familiales, finalement, de son père, ben, atteignaient pas ce lieu-là. Ouais,
il y a des murailles à tous les niveaux, là, symboliques, physiques, émotionnelles, je sais pas
c'est
quoi.
C'est un monde aussi très masculin, où c'est comme donc un monde d'hommes sans famille, finalement, qui se retrouve là. Puis elle a comme justement le désir de comprendre, mais aussi, c'est ça, surtout un intérêt là, par rapport à sa propre histoire familiale. Moi, j'ai lu le roman, puis j'ai trouvé la pièce touchante, plus drôle que le roman, je dirais.
La pièce plus drôle?
Ouais, je pense qu'il y avait un souci de rendre ça plus humoristique, des blagues. J'ai ri, puis la salle rit là, à plusieurs reprises. Je trouve que l'adaptation est très réussie, même du point de vue de la mise en scène. Là, c'était très intéressant, assez minimaliste, mais je trouve que ça laisse beaucoup de place à la représentation de cet espace-là, t'sais, qui est aussi probablement pas si extraordinaire une fois qu'on s'y rend. T'sais. C'est des espaces un peu banals, des chambres petites, une cafétéria. Les lieux sont bien évoqués dans le discours, fait que ça laisse la chance à notre imagination de se faire une image, dans le fond.
Surtout que ça ne doit pas être des lieux extravagants, rococo, avec plein de couleurs.
Exactement.
On l'imagine très simple et de base.
Exactement. Tu sais qu'il n'y a pas un effort particulier qui est mis sur la décoration.
Ouais, c'est ça.
Fait que la mise en scène reflétait bien ça. J'essaie de retrouver aussi... Ah oui! Le jeu de certains acteurs ou certaines actrices là, était particulièrement bon parce qu'il y en a qui campaient là, presque 5-6 personnages d'une petite scène à une autre à mesure que Erika Soucy rencontre donc des personnages différents sur son parcours.
Ah, j'aime ça quand ça arrive, là, quand le même acteur ou la même actrice change de tout au tout. La voix, le ton, même la position des fois.
Oui, ça marchait vraiment, vraiment bien dans la pièce. Mais on s'est posé des questions, moi et les gens avec qui on est allé voir la pièce, en fait, sur la question de la représentation des travailleurs, justement.
C'est complexe.
C'est quand même complexe, parce qu'on se retrouvait, en fait, dans un milieu très loin de ce qui nous était présenté sur scène.
La licorne, plateau Mont-Royal, coin Mont-Royal, Papineau,
exact.
Bobo, Intello.
Salle de théâtre.
Salle de théâtre, culture.
Fait que cet univers-là se retrouve sur une scène de théâtre, dans ce contexte-là, tu sais, un peu chic, un peu guindé même.
Ouais.
Puis, je dirais que la représentation des travailleurs, elle est faite avec bienveillance, avec un amour sincère là, pour ces personnages-là qui habitent sur le chantier, mais quand même, on rit avec elle, avec l'autrice, d'un peu de leur travers, de leur accent, de leurs expressions. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui nomme Roy Dupuis. Hein. Roy Dupuis est aussi connu pas mal pour ses documentaires sur les grands chantiers, sur la Côte-Nord.
Il s'est opposé à la Romaine. Là.
Exactement. Mais il l'appelle Roy Dupuis. C'est comme s'il n'avait jamais entendu son nom de sa vie. Fait qu'on a l'impression d'un certain manque de culture de la part de cette personne-là, ou du moins d'une culture qui n'est pas la même qu'une une certaine culture générale. Oui.
On s'imagine que ce travailleur-là, toute sa vie, les gens autour de lui appelaient Roy Dupuis.
Oui, ou il l'a lu une fois puis il pensait que ça se prononçait comme ça.
Comme moi qui pensais que Ron, Harry Potter, c'était Ron.
Ron, exactement. Fait qu'on a une genre de... fait qu'on rit un peu de lui avec l'autrice. Puis ça peut créer une forme de décalage, de distance entre nous qui est spectateurs puis les personnages. C'est accentué par le fait que la pièce était présentée sur scène, tu sais, au théâtre, sur le plateau de Montréal, comme tu disais.
Est-ce que c'est la pièce de théâtre en tant que telle qui t'a donné un malaise? Ou c'est l'effet de gang de tous les spectateurs et les spectatrices qui riaient du bonhomme sa scène?
Ben, j'ai l'impression que c'est un ensemble de ces choses-là, mais que t'as raison qu'en fait, quand on est seul devant le livre... avec la narratrice, dans ce cas-là, puis qu'on lit ça, on adopte plus son regard, puis on reste dans son intimité d'une certaine façon, fait qu'il n'y a pas le partage du rire commun, tu sais, où là, il y a vraiment l'impression d'une... on est plusieurs à rire de vous, tu sais.
Ouais, du rire du travailleur. Là.
Fait que l'expérience comme de la pièce, tu sais, à la fois parce que c'est présenté sur scène, mais aussi parce qu'il y a des gens... des spectateurs, puis ça devient une espèce d'expérience commune de gens qui sont pas sur la Côte-Nord, tu sais, qui, on se doute, vivent peut-être pas cette même réalité-là du tout, ben ça crée une forme de malaise qui peut, ou un petit inconfort qui peut susciter un questionnement.
Allez, j'ai plein de questions. Est-ce que tu penses qu'Erika Soucy, c'était son intention de créer ce malaise-là, sachant qu'elle allait présenter sur le Mont-Royal avec toutes des intellos qui sont à l'université?
Je sais pas à quel point c'est réfléchi, mais je pense que ça témoigne quand même peut-être de où elle se situe, tu sais, par rapport à cet héritage-là.
Ouais.
Tu sais, quand on vient d'une famille, disons, plus ouvrière, mais qu'on est... En fait, il y a beaucoup cette réflexion-là dans la pièce, que, tu sais, les gens comprennent pas trop ce qu'elle fait dans la vie, tu sais, parce qu'elle est poète, comme qu'est-ce que ça fait, une poète?
C'est une bonne question!
Mais là, elle qui, comme... C'est drôle parce qu'au début de la pièce, c'est comme un renversement. T'sais, c'est elle qui est inconfortable dans ce milieu-là. Fait qu'il y a, en fait, c'est comme presque un propos de la pièce, cette difficulté de rencontre-là.
De ces deux mondes-là.
T'sais, on se demande, en fait, si pendant toute la pièce, les gens comprennent vraiment ce qu'elle fait, puis est-ce qu'ils vont lire, t'sais, ce qu'elle écrit au terme de son parcours.
Ben, à t'entendre, c'est comme si les gens dans la pièce avec toi vivaient ce qu'elle a vécu.
Probablement.
Là-bas, ou même dans sa famille.
C'est ça, probablement. Puis vous êtes probablement, peut-être que certains de vous avez déjà vécu ça, l'impression que vos parents, vos oncles, vos tantes, si vous êtes dans des domaines plus culturels ou universitaires.
Pas obligé d'être ouvrier ou universitaire. Il y a tellement de domaines que je connais pas. C'est pas mon univers.
Exact. Fait que ça crée une forme d'incommunicabilité. Mais je dirais que ce qui ressort de la pièce, c'est ça m'a marqué, mais ce qui ressort de la pièce, c'est plus comment, finalement, elle-même comprend un peu l'espace protégé que les murailles, ce campement-là sur la Côte-Nord représentent. Donc, pour son père.
Pour son père, la Côte-Nord, c'était une sécurité.
Exact.
C'était peut-être même une famille.
Puis, une de ses réflexions, tu sais, à Erika Soucy, c'est qu'elle-même, qui laisse son fils d'un an pour la première fois pour une aussi longue durée, tu sais, elle y va pour une semaine, ben c'est qu'elle est comme un peu protégée, confortable dans cet univers-là.
Elle a vécu qu'est-ce que son père faisait.
Exact. Fait qu'on peut présumer qu'à la fin, tu sais, elle a une forme de compréhension plus grande pour... ce qu'a vécu son père, ce qu'a traversé son père. Même si elle excuse aucun de ses gestes, là, disons.
Wow, ben ça donne le goût, sauf que là, il reste seulement une journée à la pièce.
Exact, donc le 2 avril, si vous avez la chance, ben précipitez-vous. Les murailles étaient présentées à la licorne là, jusqu'au 2 avril.
Sinon, le livre, c'est...
Je vous conseille fortement la lecture du roman, donc il porte le même titre, Les murailles d'Erika Soucy. Une excellente lecture que j'ai adorée. On y va en musique?
Encore et toujours la musique.
Ah oui. Après des discussions enlevantes, allons nous aérer un peu l'esprit, en fait, avec un jeu de patience. C'est le nom de la pièce de Martin Lisotte. Martin Lisotte, qui est un pianiste, claviériste et compositeur. Il a notamment collaboré avec plusieurs artistes connus. J'en nomme quelques-uns, Daniel Bélanger, Joran ou Carquois, mais plusieurs autres. Et il est comme retourné à ses premières amours, en fait, qui est le piano. Et son album Sfumato, qui est sorti le 25 février 2022 chez Pop-Up, est très bon, je vous le conseille. Ça peut faire penser un peu à Chili Gonzalez dans ses albums solo piano, par exemple. Mmh, ouais.
Excellent. J'adore cette mode-là. On dirait que depuis quelques années, il sort plein de petits albums piano. Là. Toujours, j'en veux toujours plus.
Est-ce que le Québec redécouvre la musique classique?
Ben, puis c'est pas juste classique, il y a de quoi aussi de pop, d'accessible, genre, j'aime le fait que cette accessibilité-là de la du piano, là, tant mieux.
Super, fait qu'on y va avec ça, Jeu de patience de Martin Lisotte.
Thank you.
Vous êtes de retour à Café une dernière fois. On a trop parlé, il nous reste juste 3 minutes pour vous parler de 2 pièces de théâtre et de discuter d'un problème que j'ai ressorti en les écoutant. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est de vous parler de 2 pièces de théâtre que je suis allé voir en mars. Dès que le confinement est sorti, je me suis lancé au théâtre, j'ai exagéré. Malheureusement, elles ne sont plus présentées, mais ça me semble un bon moment pour discuter de la différence entre le vieux et le neuf, entre les classiques et l'art contemporain. Pourquoi? Parce que, d'abord, je suis allé voir Les Trois Sœurs, un classique du russe Anton Tchekhov. Cette pièce-là a été écrite en 1901. Ça a été présenté, l'année est importante, 1901. Donc, ça a été présenté au Théâtre du Nouveau Monde entre le 17 février et le 5 mars.
Pas 1901, toujours.
Là. Non, 2022, ça a été présenté. Merci de préciser, Marie. Donc, l'histoire, rapidement. Ça met en scène 3 sœurs, comme le titre le dit, qui vivent dans la campagne reculée de la Russie, un trou perdu. Elles s'ennuient à tous les points. Dans leur quotidien, ils s'ennuient autant dans leur quotidien que de manière existentielle. T'sais, les questions, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce qu'on fait de notre vie. On retrouve dans la pièce autant des conversations absurdes où les personnages peinent à se comprendre ou à s'entendre, mais aussi des belles tirades philosophiques, là, sincèrement profondes sur les rêves brisés, l'importance de l'amour ou du travail même. Bref, la pièce « Les Trois Sœurs » de Tchekhov montre des vieux problèmes, qu'on pourrait dire, mais elle monte aussi dans une forme très classique, autant dans le vocabulaire que dans la mise en scène. Donc ici, exemple type d'une pièce qui était faite pour le passé et qui est peut-être moins accessible pour les gens du présent.
Oui, puis au TNM aussi, ça fait partie de leur crédit, de leur
mission,
créneau là, de présenter des pièces plus classiques, j'imagine, dans une mise en scène relativement classique aussi. Hein?
C'était même un peu sobre et voire plate, là.
Ouais.
Genre, c'était un cube de bois. Mais bon, j'ai pas le goût d'aller là, c'est pas grave. L'autre pièce que j'aimerais vous parler, Le Nœud. Auteur Joanna Adams, une jeune dramaturge états-unienne qui vit à New York. Date de la première présentation, 2013. Donc ça, c'était présenté à la Licorne entre le 14 et le 12 mars. 14 février au 12 mars. On peut plus le voir. L'histoire, ça met en scène 2 femmes. La première, c'est une mère qui vient de perdre son enfant de 11 ans. Et la seconde, c'est l'enseignante du dit enfant. Toute l'histoire se passe en 8 clos dans la classe du petit garçon. Plusieurs sujets très complexes sont discutés dans la pièce, mais le principal est assurément la liberté d'expression. Plus précisément, la pièce demande si on peut réellement tout dire sous le couvert de l'art. Et oui, la pièce Le Nœud est une pièce de théâtre qui discute de sujets très sensibles afin de questionner la limite de ce que l'art peut dire. On appelle ça une mise en abîme. Donc, contrairement aux 3 sœurs, le style de l'écriture et la forme est très dynamique, avec un langage familier, mais surtout, la pièce porte sur un sujet hyper actuel. Donc là, on a 2 univers, une pièce beaucoup plus historique ou comme décalée avec ce qu'on vit dans le présent, et une autre pièce hyper actuelle qui pose des questions qu'on voit dans le journal. Ce qui me frappe, moi, c'est quand j'ai vu la réaction beaucoup des gens ou même de mes amis avec qui je suis allé, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de la misère à prendre la vieille pièce « Les Trois Sœurs ». Autant au premier niveau, de prendre les belles paroles et les belles idées qui étaient proposées, mais aussi même simplement de la prendre comme une œuvre historique. Et que j'ai réalisé à quel point que c'était beaucoup plus facile pour beaucoup des gens avec qui je suis allé au théâtre de prendre l'autre pièce contemporaine, « Le Nœud ». Et là, ça pose 1 million de questions de comment qu'on gère ça, les classiques vis-à-vis le contemporain, l'accessibilité vis-à-vis la moins grande accessibilité. Grosse question. Marie, tu as 30 secondes pour y répondre.
Mais j'ai 30 secondes pour y répondre. Je pense pas que je vais résoudre cet enjeu-là maintenant, mais certainement, parfois, les classiques sont rendus tellement loin de nous, de nos codes du quotidien, que pour accéder à ce qu'ils ont à nous dire puis pour les accepter, ça prend comme un effort supplémentaire ou reconnaître comme la valeur historique de ce classique-là ou de la pièce. Puis là, ben ça c'est pas toujours facile de faire ce pas-là pour, dans le fond, aller vers le classique, disons, parce qu'il vient pas naturellement vers nous, disons.
Ouais, je pense que tu as très bien répondu. Dans tous les cas, je vous conseille le vieux et le neuf. Puis je pense qu'une des belles définitions d'un classique, c'est que ça a été capable de traverser le temps parce que ça l'a fait du sens et ça l'a aidé à comprendre chacun des présents de chaque époque. Tu sais, un classique a traversé plusieurs époques. Et s'il a traversé tout ce temps-là, c'est que ça a été utile
pour comprendre l'humain ou la condition humaine ou pour poser des questions. Donc, aimons le vieux et le neuf.
Donc, ça conclut notre émission café. Vite, on est en train de terminer. Donc, on avait une émission littéraire et théâtrale où on parlait d'Anne-Marie Demel, Nature morte au couteau, Tout théorie de Serge-Paul Forêt, la pièce Les Murailles, la pièce de Tchekhov, donc, dont j'ai déjà
Les trois sœurs
de Tchekhov. Et finalement, Le Nœud.
Oui, t'es très bonne.
Exact, voilà. Donc, recommandation culturelle.
On vous laisse en musique avec une pièce que j'adore qui vient de sortir de Angel Olsen, All the Good Times. Elle est sortie le 29 mars. En même temps, l'artiste nous a annoncé la sortie de son prochain album, Big Time, on a out. Et ça sort en juin. On se gâte, la toune est bonne, country, wow.
I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for. And I don't know how it happened.
Black Rose Books invites you to our book launch event.
Confronting Canada's Past and Europe's Forgotten Revolutions.
Happening on Sunday, May 22nd, featuring the authors and editors of
Stand on Guard for Whom?
The Fire That Time.
Insatiable Hunger.
The Forgotten Revolution.
And Black Ukraine Yesterday and Today.
Join us on live stream or in person at 2 p.m.
at the Cité des Hospitalières, 251 Pine West, Corner Park.
Free tickets are available at blackroselaunch.eventbrite.ca or visit blackrosebooks.com for more information.
This event is co-presented with the Cité des Hospitalières en Transition and CKUT-FM.
Buenas noches, Montreal. Macondo y el Club de los Feos in the house. Y ahí dicen algunos me creían muerto, pero ya, aquí estoy, ya yo llegué. ¿Qué tenemos en esta noche de viernes, Mr. Franco? Buenas noches.
Juan Carlos, buenas noches. Bonsoir, tout le monde. Bienvenido a Macondo y el Club de los Feos. Tenemos como todas las semanas, Juan Carlos, gozadera, picardías, música, locuras, pero sobre todo y lo más importante, tenemos finalmente de regreso al Perroski de Macondo y el Club de los Feos. Perroski, buenas noches.
Llegó el más que mea, llegó el más que a la cachimpa, el nene de las nenas lindas.